C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Il était une fois un corbeau qui vivait dans la savane. Un jour, il tombe sur un superbe fromage. Quelle drôle de chose inconnue! Tout content de sa trouvaille, il se précipite et le saisit juste avant qu'une autruche ne s'en empare. Aussitôt, la nouvelle se répand partout. Le corbeau a trouvé une chose étrange qui sent très bon. Le singe le répète au lion, qui le dit au zèbre, qui le confie au renard. Bientôt, tout le monde est au courant et tout le monde en a envie. Mais comment le reprendre au corbeau ? J'ai une idée, s'écrie le rhinocéros. Intrigué, le renard décide de le suivre discrètement. Le rhinocéros se dirige lourdement vers le baobab, sur lequel se tient le corbeau. Boum, boum. Ses pas font trembler le sol. Sûr de lui, il fonce vers l'arbre géant et lui donne un bon coup de corne. Bang ! Le baobab vibre de toutes ses feuilles, mais le corbeau, fier de lui, tient bon et garde son précieux trésor. Ce n'est pas la bonne méthode, pense le renard. Une girafe arrive à son tour. Astucieuse, elle allonge son cou très souple, passe par la cime, replonge dans les branchages, fait le tour du tronc et attrape enfin le fromage du bout de ses dents. Mais le corbeau est le plus rapide. Il s'envole d'un coup d'aile avant qu'elle n'ait eu le temps de le dérober et sauve son fromage. Encore raté, pense à nouveau le renard. Derrière les hautes herbes surgissent d'autres animaux de la savane, tous très intéressés. « Que vont-ils faire ?» se demande le renard curieux. Ils grimpent les uns sur les autres et forment une pyramide pour essayer d'atteindre le corbeau. Mais que c'est difficile de faire tenir ensemble une antilope, une panthère, un zèbre, une autruche et une fourmi. Le babouin escalade tout le monde, saute sur la plus haute branche et hop, bondit en direction du corbeau. Mais ce dernier s'échappe encore. Le cadeau inconnu, toujours bien solidement dans son bec. Ni la force, ni l'agilité, ni l'astuce n'ont donné de résultat. Le renard est bien décidé, lui, à prendre conseil auprès d'un sage pour réussir. Il rend visite au plus vieux des serpents. Ô serpent qui connaît toutes les ruses, comment faire en sorte que le corbeau lâche de lui-même sa trouvaille qui sent si bon ? C'est très simple, fais-lui ouvrir le bec. Le renard réfléchit et rit tout seul. Il a trouvé, vite. Il retourne au pied du baobab où d'autres animaux se sont rassemblés. Le roi éléphant a même l'air prêt à secouer l'arbre avec sa trompe. Mais le renard bouscule tout le monde et s'avance au premier rang. « Hé, coucou corbeau, vous a-t-on déjà dit que vous étiez splendide ? Je vous assure, je n'ai jamais vu d'aussi belles plumes que les vôtres. On pourrait en faire des bijoux. » Le corbeau, séduit, descend quelques branches en sautillant. Enfin un ami. Il hoche du bec en se tortillant, curieux et ravi à l'avance d'en entendre plus. Pour une fois qu'on ne cherche pas à lui arracher son bien. Le renard insiste. « Foi de renard, vous pouvez me croire, j'ai voyagé aux quatre coins de la terre et jamais, jamais je n'ai vu d'aussi magnifique oiseau que vous. » Le corbeau, cette fois, est enchanté d'avoir un admirateur. Sans se méfier, il se pose juste à côté de la tête du renard. Mais vous ne répondez pas, demande le renard. Vous êtes timide ? Je suis étonnée. Je crois au contraire que votre chant est aussi magnifique que vos plumes. Et qu'avec toutes ces qualités, vous devriez être le roi de cette savane depuis longtemps. L'éléphant pousse un rugissement. Roi, lui, ce stupide oiseau ? Au discours du renard, le corbeau s'est gonflé de fierté. Bien sûr qu'il pourrait être le roi. Il n'a qu'à leur montrer à tous comme sa voix est belle et puissante. Ouvrant tout grand son bec, il prend une large respiration. Et patatras, voilà le fromage par terre. En un clin d'œil, le renard s'en saisit et triomphal lance à tous les animaux. « Chers amis, apprenez que tout flatteur profite facilement de celui qui l'écoute. » Et il file à toute patte avant que les autres puissent le lui prendre. Crois-moi, il a compris très vite quel délice ce fromage pouvait être. Tout penaud, le corbeau repart à tire-d'aile vers d'autres horizons en se disant qu'il s'est bien fait rouler par un chenapan. Plus jamais, jamais, on ne l'aura avec des flatteries. Les petits malins ne gagneront pas toujours. Le corbeau et le renard, Alexandre Jardin, Fred Multier, lu par Eliette.
Je veux saisir Monet, là, à cet instant précis, où il pousse la porte de l'atelier, dans le jour naissant, encore gris. C'est le moment du jour que je préfère. C'est l'heure bénie où l'œuvre nous attend. L'aube est fraîche, l'air vif picote les joues. Il est un peu plus de 6h30 du matin. Pas un bruit au loin, dans la maison, endormie, qu'on vient de quitter. Quelques pépitements d'oiseaux dans le jardin, où les arbres sont immobiles comme le silence. C'est un de ces matins du monde, comme il y en a tous les jours en Normandie, dans les villages que bordent l'Eure et la Seine. Nous sommes à l'été 1916. Depuis quelques mois, Monet a pris possession du grand atelier qu'il s'est fait construire en haut de son jardin pour pouvoir travailler sur les vastes formats des tableaux des nymphéas. Je veux saisir Monet là à cet instant précis, où il entre dans l'atelier, le bâtiment est encore dans la pénombre, il y règne une odeur de plâtre, de colle humide, de tabac froid et d'huile de lin. La lumière zénitale descend du ciel et traverse l'immense verrière dans la brume grise et matineuse du grand atelier silencieux. Un canapé trône dans le demi-jour, volumineux, sur lequel sont jetés une robe de chambre, un chapeau, une vaste cape noire informe. Dans quelques jarres, un bouquet, des éclosions de pinceaux, d'autres brosses plus petites éparpillées dans des pots, des dizaines de toiles sont posées à terre, en cercle, les unes à côté des autres. Ce sont des études réalisées d'après nature dans les mois précédents. Certaines sont très récentes. Elles ne sont pas encore retranscrites sur les panneaux monumentaux sur lesquels ils travaillaient. L'atelier est un chantier, il y a des esquisses et des ébauches partout. Par terre, dans des murs, en appui contre le canapé, Monet est là. Seul à s'y retrouver, dans cet intense désordre, dans cet enchevêtrement de toiles et de peintures. La plupart des panneaux sont inachevés. Monet les reprend, pas longtemps après les avoir entrepris. Pour atteindre la partie supérieure des toiles, Monet utilise une plateforme, une sorte de table basse, assez large, sur laquelle il se hisse. Il passe des heures là, à sa palette à la main, sur son échafaudage de fortune. Monet travaille dans l'incertitude. Il ne sait pas que ce qu'il peint prendra plus tard le nom légendaire de Nymphéa. Il ignore sur le moment que le monde entier vénérera l'œuvre qu'il a sous les yeux. Il n'y a aucun moyen pour l'artiste de savoir au jour le jour, face à l'obstacle, face aux difficultés de l'heure concrète, de la main et de la brosse, ce que deviendra dans les siècles l'œuvre sur laquelle on bute, sur laquelle on achoppe, et qu'on retouche, qu'on amende sans fin, en poursuivant de repentir en repentir, la quête infinie d'une perfection qui ne peut être qu'illusoire. Non, Monet ne sait rien encore du grand destin aveugle qui attend les nymphéas. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis, où il entre dans l'atelier et découvre les panneaux inachevés auxquels il travaille depuis des mois, disposés contre les murs dans la pénombre. Cela peut être n'importe quel jour de 1916 ou de 1917. Ce sont des brumes, des buées, des ondes transparentes, partout des bleus mêlés de roses, des bleus mauves et des bleus plus profonds, des bleus de cobalt, des bleus nocturnes, et ici et là, un bref feu d'or qui contraste, un incendie de jaune. Les panneaux s'accumulent, s'entassent contre les murs, toujours de 2 mètres de hauteur et de largeur variable. Depuis des mois, Monet ne quitte plus son royaume. Il ne bouge plus de l'atelier. Il ne reçoit plus de visites à Giverny. Il ne fréquente plus les collectionneurs et les marchands. Il n'a plus aucun commerce avec ses contemporains. La solitude chez Monet n'est pas un retrait ombrageux. C'est une condition de son art. L'âge aidant, l'impétuosité s'apaise. Et c'est avec beaucoup d'égard que Monet tend maintenant le regard sur le monde qui l'entoure. Lorsque le soir il se promène dans les allées tranquilles de son jardin d'eau, à la lumière déclinante, il éprouve devant la nature un inattendu apaisement du monde. Il tire sur sa pipe et observe à distance un frémissement dans les herbes du rivage. Un souffle dans les branches, une fugitive vibration de lumière à la surface de l'étang. Et c'est là son œuvre qu'il contemple. C'est ce qu'il dépose jour après jour sur la toile. Ce n'est pas tant des couleurs mouillées d'huile dans leur matérialité moelleuse, c'est la vie même dans ses infinies variations métamorphosées en peinture. Ce que Proust avait fait avec des mots en transformant ses sensations et son observation du monde en un corpus immatériel de caractère d'imprimerie, Monet le fera avec des couleurs et des pinceaux. Ce qui est à l'œuvre dans cette opération de transmutation qui occupera les dernières années de sa vie, c'est la conversion de la substance éphémère et palpitante de la vie en une matière purement picturale. Je veux saisir Monet là à cet instant précis où il entre dans l'atelier. L'instant précis où Monet entre dans l'atelier de Jean-Philippe Toussaint, lu par Maxime.
Les animaux ont des ennuis. Le pauvre crocodile n'a pas de cécédille. On a mouillé les ailes de la pauvre grenouille. Le poisson-ci a des soucis. Le poisson seul, ça le désole. Mais tous les oiseaux ont des ailes. Même le vieil oiseau bleu, même la grenouille verte, elle a 2 ailes avant le E. Laissez les oiseaux à leur mère. Laissez les ruisseaux dans leur lit. Laissez les étoiles de mer sortir si ça leur plaît la nuit. Laissez les petits enfants briser leur tirelire. Laissez passer le café si ça lui fait plaisir. Les vieilles armoires normandes et la vache bretonne sont parties dans la lande en riant comme 2 folles. Les petits veaux abandonnés pleurent comme des veaux abandonnés. Car les petits veaux n'ont pas d'ailes, comme le vieil oiseau bleu. Ils ne possèdent à eux deux que quelques pattes et 2 queues. Laissez les oiseaux à leur mère, laissez les ruisseaux dans leur lit, laissez les étoiles de mer sortir si ça leur plaît la nuit. Laissez les éléphants ne pas apprendre à lire, laissez les hirondelles aller et revenir. Les animaux ont des ennuis, de Jacques Prévert, lu par Yvonne.
Je ne veux plus aller à leur école. Seigneur, je suis très fatiguée. Je suis née fatiguée. Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois où glissent les esprits que l'aube vient chasser, je veux aller pieds nus par les rouges sentiers que cuisent les flammes de midi. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des blancs et que l'usine, sur l'océan des cannes, comme un bateau ancré, vomit dans la campagne son équipage nègre. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Il raconte qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil aux messieurs de la ville, comme il faut. Mais moi, je ne veux pas devenir, comme ils disent, un monsieur de la ville, un monsieur comme il faut. Je préfère flâner le long des sucreries où sont les sacs repus que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune. Je préfère vers l'heure où la lune amoureuse parle bas à l'oreille des cocotiers penchés. Écoutez ce que dit dans la nuit la voix cassée d'un vieux qui raconte en fumant les histoires de Zamba et de compère Lapin et bien d'autres choses encore qui ne sont pas dans les livres. Les nègres, vous le savez, n'ont que trop travaillé. Pourquoi faut-il de plus apprendre dans les livres qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici. Et puis, elle est vraiment trop triste, leur école. Triste comme ces messieurs de la ville, ces messieurs comme il faut, qui ne savent plus danser le soir au clair de lune, qui ne savent plus marcher sur la chair de leurs pieds, qui ne savent plus compter les comptes aux veillées. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Je ne veux plus aller à leur école, de Guy Tyrolien. Lu par Julie.
La pomme et l'escargot. Il y avait une pomme à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne la fit tomber sur le pré. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal ? J'ai le menton en marmelade, le nez fendu et l'œil poché. Elle roula, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village, sa demeure sur le dos. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal ? J'ai le menton en marmelade, le nez fendu et l'œil poché. Ah, stupide créature, gémit l'animal cornu. T'as défoncé ma toiture et me voici faible et nu. Pomme, pomme. Dans la pomme à demi blette, l'escargot, comme un gros ver, rongea, creusa sa chambrette afin d'y passer l'hiver. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? J'ai le manteau en marmelade, le nez fendu et l'œil poché. Ah, mange-moi, dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament, je te nomme héritier de mes pépins. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? J'ai le menton en marmelade, le nez fendu et l'œil poché. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février, il en espère de jolis pommiers. La pomme et l'escargot, de Charles Vildra, lu par Didier.
Il était une fois, dans un petit village en Inde, un garçon qui aimait peindre. Il vivait avec son grand-père dans une vieille maison pleine de tableaux. Au début, le garçon peignait sans pinceau. Il utilisait des fleurs de soucis, des feuilles de bétel et des coques de noix de coco. En grandissant, il se mit à peindre avec des pinceaux faits de bâtons dont les extrémités étaient enroulées de bandes de tissu, de roseaux ou de fleurs de jasmin. Les enfants du village les observaient par la fenêtre. Parfois, le grand-père du garçon les invitait à se joindre à eux. Le garçon et son grand-père faisaient tout ensemble. Ils cultivaient des bananes, des ananas, des fruits de jacquier et les vendaient sur le marché. Ils partageaient des mangues bien juteuses avec les enfants du village. Ils fabriquaient des bâtons en papier qu'ils faisaient flotter dans la rue sous les pluies de mousson. Ils lisaient des livres et choisissaient ce qu'ils pensaient peindre le lendemain. Après le passage des pluies, chaque nuit, ils s'allongeaient sur le toit et admiraient les étoiles jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Ils possédaient peu de biens, mais partageaient beaucoup, beaucoup d'amour. « Ne me quitte jamais, » disait le garçon. « Compte sur moi, » répondait son grand-père, serrant le garçon très très fort à lui couper le souffle. Pourtant, un jour, il partit. Tout ce qui restait de lui était la vieille maison pleine de tableaux. Le garçon se rendit dans le bureau de son grand-père. Il remarqua une petite boîte avec une ficelle autour et une note qui disait « De la part de ton dada agi avec amour ». À l'intérieur se trouvait le pinceau préféré de son grand-père. Au début, le garçon n'y toucha pas. Il ne pouvait pas. Il ne ferait pas. Quand son regard se posait dessus, son cœur se serrait. Alors, un jour, il le posa sur une étagère si haute qu'il dut se mettre sur la pointe des pieds pour l'atteindre. Les jours et les mois passèrent. Les saisons se succédèrent. Le garçon oublia la boîte. Du moins, il essaya. Les mangues n'avaient plus le même goût. La nuit, les étoiles ne scintillaient plus comme avant. Et quand les pluies arrivèrent, à nouveau, il n'y avait personne à qui faire des bateaux en papier. Les enfants du village ne venaient plus. La maison semblait bien vide, aussi vide que la place qu'occupait son grand-père dans son cœur, là où toutes les couleurs vivaient auparavant. Le garçon prit tous les tableaux et les mit sous clé. Avec le temps, les peintures séchèrent, la boîte et les tableaux prirent la poussière. Puis un jour, une petite fille se présenta à la porte de la maison. Elle tenait un bâton avec des roseaux enroulés aux extrémités. « S'il te plaît, apprends-moi à peindre, dit-elle. Comme ton dada Agi l'a appris à ma maman. Le garçon secoua la tête, mais la petite fille ne voulait pas partir. Oh, s'il te plaît! Alors il mélangea quelques peintures et lui trouva une nouvelle feuille de papier. À l'aide de son pinceau, la fillette parsema la page de taches bleues et vertes. Puis elle s'arrêta et fronça les sourcils. « Ce n'est pas beau, » dit-elle. « C'était une mauvaise idée, je n'y arriverai pas. » Elle était sur le point d'abandonner quand le garçon dit « Attends, il y a toujours un moyen. » Il regarda attentivement la feuille, puis il se souvint. Et il sourit. Le garçon déverrouilla la porte à l'arrière de la maison et montra à la fille les tableaux de son grand-père. S'il regardait attentivement la composition de chaque tableau, il pouvait voir de petites taches de peinture, parfois faites avec les doigts, parfois avec des pinceaux de bâton, de roseaux et de fleurs. Ensemble, le garçon et son grand-père avaient transformé chacune d'entre elles en quelque chose de merveilleux. Pour cela, il n'avait eu besoin que de temps et de beaucoup d'attention. Alors, le garçon attrapa la boîte, sortit le pinceau de son grand-père et commença à peindre. La fille le regarda et reproduisit ce qu'il faisait. Ils peignirent ensemble tous les jours et, au fil du temps, la maison se remplit à nouveau de belles couleurs. Et le garçon ne cessa plus de peindre. Parfois, les enfants du village l'observent par la fenêtre. Parfois, ils peignent, ils rient. Et le garçon fabrique des bâtons en papier pour qu'ils flottent dans la rue sous les pluies de mousson. Il sait au plus profond de son cœur que son grand-père sera toujours avec lui. Le titre du livre « Les couleurs de Dada Agi » écrit par Rashmi Sirdeshpande et Rushi Massane, lu par Nathalie.
La belle aventure. En courant dans le pré, j'ai attrapé deux petites fées, grandes comme un dé à jouer. Les voilà dans une feuille de magnolia. L'une m'a dit « Personne ne t'aime du tout. Ta robe de laine ne brille pas au soleil du tout. Et tes yeux couleur de lin ne sont de fleurs que le matin à cause de la rosée. Le soleil les éteint. L'autre alors m'a dit un secret. Si tu mets des boucles d'oreilles, tous les cœurs se pendront après. » La belle aventure de Lise Deharme, lue par Didier.
Les souris et les éléphants. Il était une fois une ville depuis longtemps désertée par les hommes, où les maisons et les temples n'étaient plus que ruines. Et dans ces ruines, dans les coins et les recoins, vivaient, heureuses, des souris. Elles partageaient leur temps entre fêtes, spectacles, mariages et banquets. Leur vie n'était qu'une longue suite de plaisirs. Un jour, le roi des éléphants, qui régnait sur plus de 1000 éléphants, entendit parler d'un lac où l'eau abondait et qui se trouvait non loin des ruines où résidaient les souris. Il décida de s'y rendre avec ses compagnons pour qu'ils puissent étancher leur soif tout à loisir. Hélas, le troupeau, sur son chemin, écrasa les maisons des souris et piétina un grand nombre d'habitantes. Les souris survivantes se réunirent pour commenter en détail le terrible malheur qui les avait frappés. Ces maladroits d'éléphants sont en train de nous exterminer. S'ils reprennent encore une fois ce chemin, il ne restera bientôt plus personne pour raconter nos histoires. Il existe un vieux proverbe qui dit « La patte de l'éléphant et la laine du serpent sont mortelles. » Les méchants peuvent faire beaucoup plus de mal en faisant semblant d'être gentils. Il faut que nous trouvions quelque chose pour que cela ne se produise plus, dirent-elles. Après délibération, quelques-unes d'entre elles se rendirent au lac, s'agenouillèrent humblement devant le roi des éléphants et dirent poliment « Puissant monarque, non loin d'ici se trouve notre demeure. Cela fait très longtemps que nous autres souris vivons là. Nous y sommes merveilleusement heureuses, mais si vous et vos amis persistez à traverser notre ville, il ne restera bientôt plus aucune d'entre nous. Nous vous supplions, si votre cœur est bon, d'emprunter un autre chemin, sans compter que nous pourrions vous être utiles un jour. » Le roi écouta attentivement la déclaration des souris et décida que les éléphants, à l'avenir, suivraient une autre voie. Peu de temps après, des chasseurs désireux d'offrir à leur roi quelques éléphants s'installèrent dans la région. Ils étalèrent un grand filet de cordes, le placèrent au-dessus d'un trou pratiqué dans le sol, puis ils entourèrent le troupeau d'éléphants et, au bout de 3 jours, ils réussirent à capturer le roi des éléphants ainsi que plusieurs autres. Avec bien des difficultés, ils le hissèrent hors du piège et l'attachèrent à un énorme tronc d'arbre, de sorte qu'il ne puisse plus bouger. Lorsque les chasseurs se retirèrent, le roi des éléphants chercha désespérément qui pouvait lui venir en aide. Il pensa alors aux souris. Peut-être serait-elle capable de faire ce qu'il attendait d'elle. Aussi, murmura-t-il, un de ses vieux serviteurs qui avait réussi à échapper au filet. Va dire aux souris que je suis prisonnier. Demande-leur si elles veulent bien m'aider. Le vieux serviteur arriva dans la cité des souris. Dès qu'elles apprirent la nouvelle, elles se rassemblèrent par milliers et se dirigèrent vers l'endroit où les éléphants étaient prisonniers. Se mettant immédiatement au travail, elles commencèrent à ronger toutes les cordes qui attachaient les pattes des éléphants. Grimpant même dans les arbres, elles réussirent à couper le filet et les éléphants reconnaissants retrouvèrent la liberté. Les souris et les éléphants du conte du Panchantra, lu par Rémi.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron », une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche en partenariat avec les radios du département, Radio des Boutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.